Bonjour Philippe.
Bonjour Gaël.
Je rappelle que nous sommes toujours dans cette série d'émissions et sur ce thème passionnant des prophéties de Daniel qui se sont réalisées à travers l'histoire et nous étudions en ce moment les chapitres 7 et 8 de ce livre de la Bible. Nous avions d'ailleurs identifié une petite corne dans ce texte comme étant la papauté. Et nous avions lu dans les textes précédents que celle-ci a fait la guerre aux saints durant plus d'un millénaire. Elle a dominé le monde de jadis avec un régime de terreur et de persécution. Nous allons aujourd'hui continuer à découvrir les détails de cette petite corne qui a, semble-t-il, quand même de grands pouvoirs, Philippe.
Des grands pouvoirs, oui, c'est vrai, Gaël. Cette prophétie s'applique pleinement à ce pouvoir. Je vous invite à relire la deuxième partie du verset 8 du chapitre 7. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors il y a des quantités d'autres citations historiques qui étayent ces versets bibliques. Lisons quelques-uns qui concernent l'arrogance. Je vous cite Alfred Baudrillard, né le 6 janvier 59 à Paris, et il est mort le 19 mai 42 dans cette même ville. Alfred Baudrillard était un cardinal français, universitaire, historien, recteur de l'Institut catholique de Paris. Il était aussi écrivain et membre de l'Académie française. Et puis, il se réfère à l'attitude de l'Église face à l'hérésie, et il a écrit ceci. Lorsqu'elle se trouvait confrontée à l'hérésie, elle ne se contentait pas de la persuasion. Les arguments d'ordre intellectuel et moral lui semblaient insuffisants, et elle recourait à la force, au châtiment corporel et à la torture. Elle créa les tribunaux comme ceux de l'Inquisition, et réclama l'aide des lois de l'État. Si c'était nécessaire, elle encourageait une croisade ou une guerre religieuse. Et toute son horreur du sang culmine dans son incitation du pouvoir séculier à le verser. C'est un procédé qui est presque encore plus haïssable, parce que moins franc que de le verser elle-même.
C'est quand même difficile à imaginer qu'une religion qui est censée prêcher l'amour du Christ puisse se conduire de cette façon.
Oui, et nous allons découvrir aussi tout ce qui se cache derrière cette petite corne et quelles sont ses fins. Je vais vous citer des commentaires donnés soit par des historiens ou des ecclésiastiques qui déterminent cette arrogance du verset 8, chapitre 7. Je vous cite. Le pape est comme s'il était Dieu sur la terre, seul souverain des fidèles de Christ, le roi des rois, ayant la plénitude du pouvoir, à qui le Dieu omnipotent a confié non seulement la direction des choses terrestres, mais celle du royaume céleste. Le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. C'est tiré de Lucio Ferraris, dans sa Prompta Bibliotheca, à laquelle se réfère la catholique encyclopédie.
Même des théologiens catholiques, donc, affirment ce pouvoir effrayant ?
Oui, plusieurs. Il y en a même des quantités. Mais je vais vous donner une autre citation, celle d'Adam Clark, qui est méthodiste. Né en 1762, mort en 1832. C'est un spécialiste de la Bible. Dans Commentaire sur le Nouveau Testament, volume 4, page 596, il dit « Il parlera comme s'il était Dieu, c'est ce que dit saint Jérôme de Simac. Ceci ne peut pas s'appliquer aussi clairement et aussi bien qu'au pape de Rome. Ils ont assumé l'infaillibilité qui appartient qu'à Dieu. Ils ont professé pardonner les péchés, ce que Dieu seul peut faire. » Et ils ont déclaré fermer et ouvrir le ciel qui n'appartient qu'à Dieu seul. Ils ont professé être supérieurs à tous les rois de la terre, ce qui est réservé à Dieu. Ils se placent au-dessus de Dieu en prétendant relever les nations entières de leur serment d'allégeance à leur roi, lorsque de tels rois ne leur plaisent pas. Et ils vont à l'encontre de Dieu lorsqu'ils donnent des indulgences pour le péché. C'est le pire de tous les blasphèmes. Encore une qui nous montre l'arrogance. Celle de Christopher Bachelus à la quatrième session du cinquième concile de Latran. Dans un discours au pape, il s'exclama « Tu es le pasteur, tu es le médecin, tu es le directeur, tu es le métayer. Finalement, tu es un autre Dieu sur la terre. » Mais moi, je vous rappelle le premier commandement de Dieu dans le chapitre 20 de l'Exode. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
En entendant ces quelques commentaires, on peut dire que la personne qui a la plus minime connaissance de l'histoire de la papauté sera donc convaincue par les paroles du prophète Daniel que l'on a lu un petit peu plus tôt, et donc que cette petite corne a fait la guerre aux saints et l'a emportée sur eux.
Oui, mais avant de reprendre ces aspects historiques et bibliques, je désire vous apporter une petite précision importante. Je suis issu du catholicisme de par ma famille et j'ai suivi mes classes dans les écoles catholiques. J'étais enfant de cœur. Ma famille et ma belle-famille sont catholiques. Et dans ces émissions, je parle du pouvoir politico-religieux, du Vatican. Je ne parle pas des fidèles qui vivent leur foi avec des lumières qu'ils ont. Je tenais à apporter cette précision de manière à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame.
Et vous faites bien de le faire. Merci Philippe pour cette précision importante. Je vous propose donc que nous poursuivons maintenant notre émission sur cette thématique de l'arrogance de ce pouvoir et de la domination de cette petite corne.
Oui, la deuxième partie de la prophétie commence à se réaliser. Rappelez-vous le verset 8 du chapitre 7. « Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Prenons encore un témoignage qui nous prouve que ce pouvoir papal utilisait des pouvoirs séculiers pour en arriver à ses fins. Je vous cite une lettre du pape Martin V, de 1417 à 1431. Et dans cette lettre se trouvent les instructions données au roi de Pologne. Je vous cite la lettre. « Sachez que l'intérêt du Saint-Siège et de ceux de votre couronne vous impose le devoir d'exterminer les Hussites. Souvenez-vous que ces impies osent proclamer des principes d'égalité. Ils soutiennent que tous les chrétiens sont frères et que Dieu n'a pas donné à des hommes privilégiés le droit de gouverner les nations. Ils affirment que Christ vint sur la terre pour abolir l'esclavage. Ils appellent les gens à la liberté, c'est-à-dire à l'anéantissement des rois et des prêtres. Aussi, pendant qu'il est temps, dirigez vos forces contre la Bohême, tuez, faites des déserts partout, parce que rien ne pourrait être plus agréable à Dieu ni plus utile à la cause des rois que l'extermination des Hussites. » Les Hussites sont des partisans de Jean Hus, qui était recteur de l'université catholique de Prague, et il devient chrétien biblique, et pour ça il fut excommunié de l'église catholique en 1411 et il fut brûlé en 1415. À titre de comparaison, durant les trois premiers siècles, la Rome païenne a fait périr près de 3 millions de chrétiens, hommes et enfants. La Rome païenne faisait grâce aux femmes, mais la Rome papale fit périr hommes, femmes et enfants. Il n'y avait pas d'âge ou de sexe. Continuons et lisons le verset 25 du chapitre 8 du livre de Daniel. « Il prononcera des paroles contre Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. »
Alors nous avions expliqué dans une émission précédente la situation des saints, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais avec ce texte, devons-nous comprendre que les papes ont insulté Dieu ?
Non Gaël, rassurez-vous. Aucun pape n'a insulté Dieu verbalement, du moins par ma connaissance. Toutefois, ils se sont attribués des pouvoirs divins qu'ils n'ont pas. Et ça s'appelle de l'usurpation de pouvoir. Prenez l'infaillibilité par exemple. Ce dogme a été défini solennellement en 1870 lors du premier concile œcuménique du Vatican, qui aujourd'hui n'est toujours pas remis en cause. Écoutons ce que disent des auteurs catholiques. Je vous cite. « Si grande est la dignité et l'élévation du pape qu'il n'est pas simplement un homme mais presque Dieu. » Une autre. « Ainsi, par une triple couronne, le pape est sacré roi du ciel, de la terre et des enfers. » Encore. « Il possède en effet une dignité et un pouvoir tel qu'il constitue avec le Christ une seule et même autorité judiciaire, comme l'affirment généralement les docteurs. » Et toutes ces citations sont tirées de Prompta Bibliotheca, Venise, 1763, tome 6, article « Papa » par Lucius Ferraris, qui était théologien franciscain. En fait, la petite corne a une bouche. Et par l'autorité de ses encycliques ou de ses décrets, le Vatican a exercé pendant de longs siècles une influence considérable dans le monde. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce contenu. En fait, elles font partie de cette arrogance des paroles contre le Très-Haut. Par leur comportement, les dirigeants de cette église insultent le Très-Haut.
En fait, l'insulte, c'est l'usurpation de l'adoration qui revient à Dieu ?
Tout à fait. Et j'ai aussi cité un autre exemple. Le fait que presque toutes les autorités du monde se prosternent devant le pape. Que nous dit la Bible ? L'apôtre Jean se trouve devant un ange, Apocalypse 19 au verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et il récidive un peu plus loin au chapitre 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Voyez-vous, les anges même, êtres surnaturels, nous mettent en garde. Nous devons nous prosterner uniquement vers notre Créateur. Et nous avons le premier commandement qui, je vous le rappelle, nous donne le même avertissement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Effectivement, nous avons des textes qui sont clairs, il n'y a donc pas d'ambiguïté. Voici un roi qui a l'air d'avoir des ambitions et de vouloir les faire durer.
Oui, et je vous rappelle que cette petite corne projette de vouloir changer le calendrier et la loi de Dieu. Au verset 25 du chapitre 7, je vous cite, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. » Et ce pouvoir restera en place jusqu'à la fin des temps. Et je vous lis la suite du verset 25 et 26. « Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Cette petite corne sera détruite lors du retour de Jésus.
Et finalement, c'est toujours vers cet événement que nos regards se tournent pour y trouver l'espérance. Alors, on a dit que cette petite corne allait espérer changer les temps et la loi. Je vous propose qu'on puisse évoquer ça dans une prochaine émission, Philippe.
Oui, merci Gaël.
À bientôt.
À bientôt.